Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Et nous débutons aujourd'hui une nouvelle série sur la sexualité, mais sexualité et spiritualité, ce qui est un angle particulier. Et pour commencer, donc, nous sommes en compagnie de Mgr Gobiliard, évêque auxiliaire de Lyon, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir jusqu'à France Culture. Et c'est donc Église catholique et sexualité, le thème de cette émission. Mgr Gobiliard, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu. Vous êtes donc, comme je le disais, évêque auxiliaire de Lyon. Vous avez écrit déjà un certain nombre de livres que j'aimerais citer, en particulier celui qui vous plaît beaucoup, c'est le journal de Tanzu Moa.
Tanzu Moa, oui.
Voilà, prononcé à la malgache, puisque c'est là-bas que ça se passe. Voilà. Et c'est vos réflexions sur le célibat qui a été publié par les éditions Béatitude en 2016. Mais vous aviez auparavant écrit aussi un livre sur la pudeur en 2012, à l'échelle de Jacob, et puis Dieu a besoin de toi, qui est un autre livre. Et enfin, le livre pour lequel je vous ai invité, parce qu'il était en plein dans notre émission, Aime ce que tu veux, fais-le, avec Thérèse Argot et Arthur Herlin, chez Albin Michel, qui va nous faire balayer un petit peu la position, votre position, puisque c'est vous qui parlez, mais aussi la position de l'Église, sur les thèmes de la sexualité, et j'ai envie de dire, Dieu sait s'il y en a.
Oui, oui, oui.
Alors, il se trouve que en octobre, tout récemment, il y avait un synode sur les jeunes, où il y avait plusieurs évêques français qui étaient là, dont vous, et vous êtes intervenu justement sur le thème de la sexualité, ce qui n'est pas tout à fait courant, et qui doit vous faire beaucoup d'amis et quelques réticences ici et là. Vous écrivez « La sexualité est un extraordinaire cadeau du Créateur et l'épanouissante expression d'un amour mutuel fondé sur l'élan réciproque, sur le don réciproque des personnes ». Vous écrivez également « Face aux questions de pédophilie qui secouent l'Église, les jeunes sont exigeants à notre égard ». Donc nous allons aborder plusieurs thèmes, dont celui de la sexualité qui pose la question du plaisir et de la reproduction. Et dans cette première partie, j'aimerais qu'on avance sur la notion de plaisir. Parce que il y avait pour moi, je dirais dans toutes les discussions que j'ai pu avoir sur ce thème et autour bien sûr de la reproduction, ça vous étonnera pas, un point fondamental qui est que le plaisir sexuel doit toujours être relié à une possibilité de reproduction. Et que donc, aborder le plaisir sexuel sans envisager l'issue reproductive n'était pas acceptable. Quelle est votre position là-dessus, Mgr Gobiliard?
Oui, depuis Vatican II, les choses ont quand même pas mal changé. Par exemple, dans la définition du mariage, en fait, on reconnaît que la finalité du mariage, c'est l'unité, l'union des époux. Hein, c'est pas seulement la fécondité, c'est aussi l'union des époux. Donc cette dimension amoureuse est tout à fait prise en compte. Hein. À propos du rapport au plaisir, je dirais que pour l'Église, le plaisir est bon. Voilà, le plaisir est un don du Créateur, comme cette sexualité dont on vient de parler. Il faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est un cadeau qu'il faut recevoir avec reconnaissance. J'ajouterais, à condition qu'il soit finalisé pas par lui-même. C'est-à-dire que si mon vrai plaisir c'est le bonheur de l'autre, si le plaisir peut être vu aussi comme une récompense, hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, je vis quelque chose d'extraordinaire et le cadeau de cette relation, c'est un plaisir, et ben tant mieux. La difficulté et le plaisir d'ailleurs diminuent lorsqu'il est replié sur lui, lorsqu'il devient sa propre fin. À force de rechercher un plaisir pour lui-même, on découvre à la fois que le plaisir diminue et que finalement ça remplit pas mon cœur. Donc je serais plus épicurien que hédoniste. Pour Épicure, voilà, le sommet du plaisir se trouve dans le bonheur.
Alors évidemment, vous recadrez, vous venez de le faire, je dirais, dans deux notions. La notion d'abord d'un couple stable, on va dire, voire ad vitam aeternam, et aussi dans le dépassement, je dirais, de l'objet sexuel, on peut dire, pour un sujet sexuel, un sujet en plénitude, et pour ceux qui ont la foi en lien avec le Tout-Puissant. Évidemment, on est quand même frappé par le passé, hein, qui est quand même lourd, sur les condamnations qui ont existé sous toute forme de plaisir. Bien sûr, surtout sur le plaisir désordonné, hein, c'est-à-dire, quand je reprends le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 235, la luxure est un désir désordonné ou une jouissance déréglée du plaisir vénérien. Donc, c'est-à-dire quand c'est cadré dans une relation stable et engagée, là vous ouvrez les portes.
Oui, alors je mets quand même un petit bémol à ce que vous dites, c'est que oui. C'est que le plaisir dans la vie quotidienne, hein, il est offert et le grand mouvement, pour moi le plaisir désordonné, c'est le plaisir qui se regarde comme centre, c'est-à-dire quand je suis complètement replié sur moi, pour moi le fait d'être désordonné, c'est d'être replié sur moi. Hein, je le comprends comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est pour ça que l'approche du pape François est pour moi très importante. La sortie de soi, c'est-à-dire le fait d'être tourné vers l'autre, tourné vers la relation. Et je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est lorsque ces plaisirs corporels sont liés à la relation. Hein. Et dans ce cas-là, il décuple mon plaisir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment le propre de l'homme, cette relation-là. Et le repli risque de... À tous les niveaux, d'ailleurs. Le repli risque de donner une image d'un faux plaisir, d'un plaisir qui finalement va pas me faire plaisir à la fin.
On va parler d'ailleurs de l'auto-érotisme, hein, je dirais tout à l'heure. Mais là, dans cette relation à l'autre que vous glorifiez, hein, je veux dire fort justement, il se trouve quand même que les jeunes ne sont pas encore en couple, ils sont dans une ébauche de couple. Et donc va se poser une question fondamentale de notre société. C'est que, comme vous le savez, les jeunes ont les premiers rapports en statistique, sont autour de l'âge de 17 ans, et le premier enfant, c'est autour de 30 et 31 ans. Donc il y a une grande distance entre statistiques, toujours, bien entendu, qui fait qu'il va y avoir une période relationnelle qui peut passer à l'acte ou pas passer à l'acte. Et donc la première question, c'est que pensez-vous des relations sexuelles avant mariage ? Parce que il est clair que quand vous êtes dans votre position de ce livre et des paroles que vous prononcez, il est clair que au sein du mariage, et encore une fois sur un couple qui s'est engagé en dehors de du plaisir sexuel, mais qui l'accompagne bien entendu, il n'y a pas de problème. Là où ça devient un peu plus questionnable, et les jeunes ont dû vous questionner là-dessus, c'est de savoir comment faire. C'est-à-dire, un, est-ce que vraiment il faut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles ? Réponse.
Ah oui, alors en fait surtout il faut être réaliste. Enfin, c'est un moment quand je vous écoute, je me dis on n'est plus à l'époque où l'Église dictait le comportement sexuel des personnes. Hein. Maintenant, je vais revenir toujours au pape François. Ce qui est important, c'est de voir où sont les personnes, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils vivent, des couples qui vivent des relations sexuelles avant le mariage. Évidemment, vous comprenez bien qu'on en reçoit plein. Hein, en fait, ils sont très nombreux. Donc,
vous les acceptez, mais est-ce que vous les accueillez, mais est-ce que vous le prônez ?
Comment ? Non.
Enfin, prônez, c'est peut-être beaucoup dire,
mais prônez, enfin... prônez, non, c'est sûr que non. En revanche, moi, j'ai réfléchi sur pourquoi est-ce que l'Église propose d'attendre. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi moi-même, quand je fais une préparation au mariage, je dis au couple, vous vivez ensemble, vous avez même trois enfants, pendant une période qui sera celle que vous choisirez, ça peut être deux jours, vous voyez, c'est pas grand-chose, et ben essayez de vivre cette continence, cette abstinence pour vous retrouver. C'est-à-dire que c'est pas pour obéir à l'Église, hein, c'est pas pour répondre à un code moral. Moi, j'aime pas du tout ces réponses à un code moral, mais pour vous retrouver, pour découvrir autre chose. Et c'est ce qui m'a fait comprendre finalement que dans la relation humaine, d'une manière générale, la relation amoureuse, hein, je veux dire, ce qui est le plus dur à donner, c'est pas le corps. Le corps, c'est assez facile à donner, et moi je préfère dire sur les différentes étapes, commençons par mettre en place celles qu'on a peur de ne pas être en place, de pas mettre en place si on commence par la mauvaise. En gros, je trouve que le cœur, quand on dit je donne mon cœur, bon, on sait pas très bien, moi je sais pas ce que ça veut dire, enfin je veux dire, non, en revanche je donne mon temps, ouais. Je vois bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je rentre dans un dialogue avec l'autre. Je vois bien ce que ça veut dire. Le corps, il est impatient, comme dirait le film. Hein, et l'impatience des corps risque de blesser la relation.
Là, vous insistez donc beaucoup, et je peux le comprendre, sur le don réciproque et permanent, n'est-ce pas, et sur la dimension qui dépasse, je dirais, la sexualité charnelle pour en faire un lien profond entre les personnes. C'est tout, en même temps, vous développez beaucoup l'attention à l'autre. Hein, c'est la clé de voûte, on va dire, de la relation, qu'elle soit charnelle ou non.
Oui, pour moi, c'est de passer du côté de l'autre. C'est-à-dire que l'amour véritable, c'est lorsque je suis capable d'aller, comme on dit dans un langage particulier, sur la colline de l'autre, apprendre à le connaître, apprendre à le découvrir, apprendre son secret. Et son secret, il s'apprend dans un dialogue intellectuel, spirituel, amoureux, corporel aussi. Il ne faut pas avoir peur de ce dialogue corporel.
Alors, effectivement, donc, nous retenons que la position aujourd'hui de l'Église, par votre voix, est que la sexualité est bonheur, c'est un cadeau, c'est non un ennemi, c'est ou un obstacle à tout changement.
C'est-à-dire que quand vous parlez de la sexualité et de l'Église dans la rue, les gens, ils s'imaginent qu'on dit que c'est un péché.
Vous voyez, bah oui, quelques sorcières qui se sont fait attraper.
Ouais, bah c'est pas un péché. Non, bien sûr qu'à travers la sexualité, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que la sexualité, puisque c'est un lieu tellement intime, tellement fort, où je vis des choses tellement fortes, ça peut être aussi un lieu de manipulation, à partir du moment où un lieu d'expression de mon pouvoir. Bien sûr qu'il faut pas non plus de regarder la sexualité de façon irénique. C'est un magnifique cadeau à partir du moment où c'est ajusté à l'autre.
Et j'aime la notion beaucoup de l'ajustement, d'ailleurs, hein,
ouais,
effectivement.
Ouais, j'aime bien cette notion d'ajustement.
Oui, on le retrouve dans votre livre et c'est effectivement. Alors, ceci dit, votre co-auteur, Thérèse Argaud, à un moment donné, explose et dit il y en a ras-le-bol sur les leçons de morale sur le sexe avant le mariage, sur la contraception, sur les positions sexuelles, sur l'infidélité ou sur le divorce. C'est une litanie d'interdits. Donc il y a encore, ça pèse, cette litanie d'interdits que vous essayez, par vos paroles et par vos écrits, de lever. Et la question qu'elle pose, c'est quelle place accorder aux femmes, aux divorcées, aux remariées, aux personnes homosexuelles, et aussi aux psychologues, sexologues et sociologues qui, évidemment, donnent une image plus complexe de la ligne, je dirais, idéale.
Oui. Alors, la première chose, c'est quelle place donner. Pour moi, l'Église catholique, c'est pas quelques évêques et quelques prêtres. L'Église catholique, ce sont des gens qui croient en Dieu, dont le préalable est la foi. Et parmi ceux qui croient en Dieu et dont le préalable est la foi, il y a aussi des sexologues, il y a aussi des scientifiques, il y a aussi des philosophes, il y a aussi des gens qui sont sur le terrain, il y a aussi des gynécos. Vous voyez? Et j'aime bien dire qu'attention, nous, on parle de ce qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'autres catholiques qui peuvent parler au nom de l'Église catholique parce qu'ils en font partie, qui sont très compétents dans ces domaines. Donc, effectivement, Thérèse Argaud, elle bouillonne en disant « Arrêtez les évêques de parler de ces choses-là ». L'Église catholique, c'est pas d'abord une morale, en fait. C'est d'abord une relation. Une relation avec Dieu, avec Jésus, dans l'Évangile. Et au nom de cette relation, ma vie va changer. Elle doit être cohérente avec cette relation, ma vie. Mais c'est pas d'abord une morale, c'est pas d'abord un code de morale. Et si on commence par en faire d'abord un code de morale, alors on va faire de nous des exemples. Et c'est l'inverse. On va vers le Seigneur, on va vers Jésus, parce qu'on a besoin d'être converti, parce qu'on n'est pas assez dans cette relation à l'autre, parce qu'on n'est pas assez dans la générosité. Et on a besoin de lui pour ça. Et on est des pauvres types, comme tout le monde, quoi. Hein, et pour moi, c'est très important de dire, c'est d'abord une relation. Et donc cette relation, elle est ouverte à tous, hein, qu'on soit homosexuel, qu'on soit divorcé, remarié, que sais-je, on a tous accès à la relation avec Dieu. Et c'est le grand combat du pape François quand il dit « N'appelez pas les gens par des adjectifs, hein, appelez-les par leur nom, par des prénoms, ce sont des personnes, ce sont pas des adjectifs. »
C'est plus complexe qu'une attirance sexuelle ciblée.
Et pour moi, on est au service de cette relation, c'est la première chose à dire, on est au service d'une relation qui nous dépasse, c'est pas à moi de régir cette relation. Hein, c'est pas à moi. Si quelqu'un veut prier le bon Dieu et veut faire de sa vie quelque chose qui avance vers le bonheur, c'est son affaire, quoi.
Alors vous dites que effectivement que la sexualité nous attire vers l'autre, hein, que c'est précieux à cause de cela, et pourtant je dirais le célibat des prêtres.
Oui.
Alors bien sûr, il y a l'autre, il y a Dieu qui vous attire plus que tout, mais quand même dans la relation avec l'autre humain, on va dire c'est une question. Le célibat, on va dire d'abord. Non choisi. Comment vous considérez les célibataires non choisis et comment vous considérez le célibat choisi, qui est en particulier le célibat sacerdotal?
Alors, à propos du célibat non choisi, on va commencer par ça. Au Synode, justement, j'ai été, je dois vous dire, choqué, parce qu'il y a un des paragraphes du document préparatoire qui parlait des célibataires par confort, de ceux qui sont célibataires parce qu'ils veulent pas s'engager, voilà, parce qu'ils veulent jouir de la vie. Et là, vous savez, on appuie sur le bouton un moment pour dire qu'on veut la parole. J'ai appuyé sur le bouton, j'étais un peu en colère, et j'ai dit, mais comment parlez-vous des célibataires alors que beaucoup n'ont pas choisi leur célibat. Peut-être qu'ils sont rentrés dans nos séminaires et qu'on leur a dit à juste titre qu'ils n'avaient pas la vocation. Peut-être qu'ils ont voulu se marier et ils sont pas mariés et ils aimeraient tellement avoir une vie solide, heureuse, peut-être avec des enfants, et on les laisse sur le carreau avec aucun accompagnement pastoral, aucune attention à eux. Alors je leur ai dit, il faut que le synode des jeunes s'intéresse à ces gens-là et leur fasse des propositions et ouvre leur cœur pour que leur vie soit un peu plus remplie. Donc pour le célibat non choisi, on a un gros retard à rattraper parce que il y a des jeunes qui ont besoin qu'on leur dise quelque chose. Ensuite, pour le célibat choisi, c'est important de rappeler que nous sommes des êtres humains. Et donc la dimension de la sexualité, elle doit toucher toutes les personnes. Et là, on touche peut-être quelque chose qui est du domaine du tabou dans l'Église. C'est évidemment qu'il faut parler de la sexualité des prêtres, au moins dans ce mouvement intérieur, dans cette force de vie, qui sinon ils vont la vivre comment? Comme une frustration, comme quelque chose qui les empêche de vivre. Moi, j'ai envie de dire, c'est d'abord quelque chose qu'il faut reconnaître, y compris dans le célibat. Hein. Il m'arrive d'avoir des grandes pulsions sexuelles, comme n'importe qui, et je le raconte d'ailleurs dans le livre sur Madagascar.
Oui. Vous dites, le prêtre n'est pas immunisé contre les tentations, il apprécie la beauté, et ce qui n'est pas un péché d'adultère du regard.
Voilà. Et ensuite, moi j'aime bien ce que dit Thérèse Argaud, justement, à ce propos. À un moment, elle dit, attention, alors que Thérèse Argaud n'est pas catholique, hein, je le rappelle, elle dit, attention, la pulsion sexuelle n'est pas d'origine sexuelle. Alors ça surprend les gens quand on dit ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la pulsion sexuelle? Il y a le désir d'être reconnu, le désir d'être aimé, le désir de réussir sa vie, hein, des désirs profonds qui font la grandeur de l'homme aussi, hein. Et ces désirs, ils s'expriment à travers le désir d'être serré dans les bras d'une femme, toutes ces questions. Bien sûr, il faut être capable de voir à la fois que la pulsion sexuelle, elle dit quelque chose de la profondeur de mon cœur et de mes grands désirs. Et donc, c'est pas nécessairement par la relation sexuelle qu'on répond dans le fond à la pulsion sexuelle. Ça peut être aussi par une attention profonde à l'autre, par un don de soi.
Et moi, je trouve une sublimation.
Alors oui, c'est ce que Freud appelle la sublimation. Moi, je voudrais dire que oui, je suis d'accord avec la question de sublimation, à condition que ça soit pas un truc pour nous éloigner du corps, de notre corporéité. Vous savez, un truc qui nous détacherait du corps. La sublimation, non, la sublimation, c'est je vais trouver les moyens dans ma vie de vivre cette pulsion,
mais,
ces pulsions.
Mais vous dites que quelque part dans le livre, que je conseille encore une fois chez Albin Michel, « Aime ce que tu veux, fais-le », Monseigneur Emmanuel Gobillard, vous dites à un moment donné que le célibat, c'est votre forme de sexualité.
Bah oui, alors ça étonne beaucoup parce que
bah oui,
mais en fait moi je me trouve très heureux dans cette forme de sexualité, dans cette dimension du célibat. J'ai le sentiment, alors je l'ai exprimé aussi dans une lettre, hein, c'est un monsieur qui avait le sida que j'ai accompagné, un certain Mario, qui un jour m'a dit j'ai compris ton célibat. Il était en train de mourir du sida, et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu dis? Moi-même, j'ai un peu de mal à comprendre, en fait. Et il me dit, en fait, quand tu es là, je me repose dans ton cœur. Alors là, je me suis dit, il n'y avait aucune ambiguïté, hein, dans ce qu'il me disait. Ça veut dire quoi? Je lui dis, il me dit, en fait, toi, il y a personne dans ton cœur. C'est-à-dire que les dames de la Croix-Rouge qui viennent, elles nous offrent des petites choses et on est très content qu'elles soient là. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me regarde pour ce que je suis. Si t'avais une femme dans ton cœur, si t'avais des enfants dans ton cœur, je serais pas tout pour toi à ce moment-là. Alors évidemment, c'était un peu sublimé lui aussi, le regard qu'il avait. Mais j'ai trouvé que ça
vous
donnait un vrai
que vous
sens.
Aviez, il ressentait une disponibilité, votre disponibilité à son égard.
Qui n'est pas une disponibilité de temps, qui est une disponibilité d'attention.
Mais comment vous expliquez que dans beaucoup de religions, que ce soit la religion juive, la religion chez les orthodoxes, chez les protestants, il n'y a pas le célibat des prêtres? Et que, en plus, je vais vous faire répondre sur la question, je connais connais la réponse puisqu'elle est dans le livre, mais est-ce que s'il n'y avait pas le célibat des prêtres, on aurait moins de pédophilie dans l'Église ?
D'abord, le célibat des prêtres dans l'Église catholique latine, hein, parce que dans l'Église catholique orientale, il y a des prêtres mariés.
Absolument.
C'est une spécificité, effectivement. Mmh. Moi, j'aime beaucoup les spécificités. Je préfère les garder.
Tant mieux, parce que diversité, sinon, vous seriez mal.
La diversité des expériences dans le monde en fait la richesse, plus que... Voilà, j'aime pas trop l'uniformité, dire faut qu'on se ressemble tous, moi, ça, j'aime pas trop ces choses-là. Mais en revanche...
Non, on parlait du célibat dans l'Église catholique par rapport aux autres situations.
Ah oui, est-ce qu'il y aurait plus de vocations, c'est ça? Est-ce qu'il y aurait plus de vocations? Eh ben, figurez-vous que, bah, effectivement, les statistiques, même dans l'Église orientale, montrent qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de vocations au célibat que chez les personnes mariées. Et de fait, dans l'Église catholique, il n'y a jamais eu autant de vocations à l'échelle un peu mondiale. Hein. En France, c'est un peu compliqué, je dois vous dire. Mais à l'échelle mondiale, il n'y en a jamais eu autant. Et la crise des vocations se vit de façon très, très, très forte dans les églises où le mariage est possible. Donc, c'est pas cette question-là,
en fait. Donc, ça va pas bouger.
Donc, alors, en fait, je sais pas, et c'est pas une question non plus essentielle. C'est-à-dire que le sacerdoce n'est pas lié essentiellement au célibat. Hein. Donc, c'est une question qui peut, en théorie, bouger. Hein. Moi, je trouve que ce célibat est magnifique et qu'il me permet moi-même de m'épanouir profondément si j'en trouve le sens. Donc, je trouve que c'est une richesse. Et donc, je trouve que c'est dommage de perdre cette richesse.
Et voilà. Par rapport à la question de célibat égale plus de pédophilie?
Alors, oui, bah, c'est pareil. Enfin, n'importe quel psychologue à propos de la pédophilie, c'est que on trouve des pédophiles dans tous les milieux et malheureusement
et
beaucoup
même
beaucoup
plus
dans les familles.
Les familles
hein. Voilà, et ouais. J'ai vu des chiffres récemment. Je sais pas, c'est des chiffres effrayants par rapport à l'inceste, mais effrayants. C'est un problème de société qui dépasse heureusement et l'Église catholique, même malheureusement même, parce que c'est un problème de société.
Et Thérèse Argaud dit fort justement, mais alors comment est-ce qu'on considère la femme si c'est le bouche-trou à la pédophilie, quoi.
Bah oui, c'est terrible. Voilà. Enfin, ouais.
Donc, on résout pas tous les problèmes, mais on va revenir sur l'ensemble des problèmes après un peu de musique. Le grand corps malade, dimanche soir.
Qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir, parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments, et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment, parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans, c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler, te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir.
Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème.
Parce que je te chambre sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et que chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je vais encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir.
J'ai dans la tête que...
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Voilà, après ce très beau titre de Grand Corps Malade qui chante dimanche soir. Il n'a plus peur du dimanche soir. Donc, titre choisi par Monseigneur Emmanuel Gobillard, qui est notre invité d'aujourd'hui. Aime ce que tu veux, fais-le. Un livre chez Albin Michel avec Thérèse Argot, position de l'Église catholique sur la sexualité, ce qui n'est pas banal, parce que, encore une fois, nous avons une ouverture, en tous les cas, des questions, et une réponse qui est bâtie, bien sûr, sur la base de la croyance en Dieu dans l'Église catholique, bien entendu. Croyance tellement forte des fois que il y a quasiment des mariages qui se sont faits pour quelques femmes religieuses dans une extase avec Dieu qu'on pourrait quand même rapprocher, ne serait-ce que de voir la transverbération faite par le Bernin avec ce dard d'or qui symbolise la jouissance dans cette sculpture. Et qui montre que Sainte Thérèse d'Avila avait des jouissances, quoi, je dirais, de sa relation avec Dieu. Comment est-ce que vous réagissez en tant qu'évêque ?
Pas mal, plutôt bien. pour moi, l'un des fondements de notre personne, c'est d'être capable de dire que tout ce qui touche mon corps touche mon âme, et tout ce qui touche mon âme touche mon corps. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis atteint dans mon corps, de façon très violente parfois, et même de façon épouvantable, évidemment ça brise mon âme, voyez, hein, et la question du viol par exemple, etc., c'est la façon négative de rappeler ça, mais aussi lorsque quelqu'un touche mon corps de façon délicate et profonde, lorsque le début des relations intimes commence, eh ben mon cœur est profondément dans la joie, c'est-à-dire que j'éprouve quelque chose. Et l'inverse est vrai aussi, lorsque j'éprouve un sentiment profond pour quelqu'un, mon corps se s'ouvre d'abord, se dispose, se réveille, et puis vit quelque chose qu'on appelle un orgasme, qu'on peut appeler aussi une extase. Ça me dérange pas du tout qu'on dise ça. Nous sommes des personnes unifiées, hein, où le lien entre l'âme et le corps est très fort. Et ma joie profonde du cœur, elle s'exprime, y compris dans la spiritualité. J'ai besoin de mon corps dans la spiritualité. C'est-à-dire que j'ai besoin de trouver une position pour prier. Et lorsque je suis ému, il m'arrive que mes yeux pleurent. Vous voyez, lorsque je suis ému d'une émotion spirituelle, et à un moment, cet amour est si fort chez certains que leur corps est... On vous dit transverbéré, c'est le terme pour Sainte Thérèse
d'Avila. C'est pour magnifique sculpture.
C'est pour le dire de façon pudique, mais de fait, mon corps réagit de façon très belle et très positive, et pourquoi pas.
Alors, moi j'ai plusieurs problèmes, y compris dans ma pratique de médecin gynécologue, par rapport aux positions de l'Église. C'est en particulier, je le disais pour commencer, cette séparation qui a été quand même prônée fortement, y compris dans De Nam Vitae et d'autres textes, sur pas de séparation entre sexualité et reproduction. Ce qui aboutit quand même à une condamnation, entre guillemets, en tous les cas, un non-soutien de la contraception. D'ailleurs, dans le livre, vous développez beaucoup la contraception naturelle, sur laquelle nous, gynécologues, on s'est quand même éloigné vu le taux d'échec important. Alors, qui est peut-être valable sur un couple constitué, et vous vous adressez à ce moment-là à un couple constitué qui se connaît, qui est déjà en chemin depuis un certain temps, qui n'est pas valable dans les premières relations et les premiers contacts, qui parce qu'il y a 20% d'échecs, et on le sait. Donc c'est vrai que on prône à ce moment-là une contraception, en plus dans certains cas... Nous avons des raisons médicales, des règles douloureuses, des syndromes prémenstruels. Enfin bon, il y a tout un tas de raisons à prendre différents types de contraception. Et puis il y a eu cette position aussi du pape Benoît en 2009 sur le préservatif qui aggraverait le SIDA, qui a été repris après. Et puis donc il y a cette opposition sur le principe même de la fécondation in vitro, c'est-à-dire l'engendrement, on va dire, sans sexualité. Donc, vous voyez, cette dissociation, cette reconnaissance ou prôner la non-dissociation entre sexualité et reproduction, me pose un problème, et j'aimerais vous entendre.
Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que, figurez-vous que dans le livre, c'est pas moi qui parle de cette question, c'est justement Thérèse Argaud qui n'est pas catholique. Donc, c'est important de dire, moi, j'ai voulu un peu laisser quand même plutôt Thérèse Argaud répondre sur ces questions, parce que, figurez-vous, et vous le savez, je ne suis pas gynéco. Voilà, donc c'est la première
chose.
Vous
pourriez l'être. Hein.
Voilà, mais il y a aussi des catholiques qui sont gynéco, hein, voilà, des grands médecins. Donc, la réflexion, elle est d'abord de dire, en fait, l'Église n'interdit rien. L'Église n'est plus dans la position où elle interdit les choses. Et il faut quand même accueillir l'Église comme celle qui montre peut-être des exigences qui semblent pour certains inatteignables. Hein. J'ai pas de mal à entendre ça. Et parfois elle est très exigeante. Et il y a un petit côté entre guillemets, alors c'est un grand mot, mais un petit côté prophétique dans une civilisation très très individualiste. Voilà. Et donc que l'Église montre l'idéal, ça ne veut pas dire qu'elle condamne tous ceux qui ne le réalisent pas. Sinon, elle condamnerait tous ses membres, en fait.
Mais vous savez, je reprends cette thématique que je connais bien, quand les premières fécondations in vitro ont eu lieu en France, il y avait des hôpitaux catholiques, et en particulier à Paris, et puis à Lille, et qui avaient commencé, plein d'espoir, de répondre à ces couples infertiles. On était dans des couples hétérosexuels à ce moment-là. Hein. Et qui ont dû fermer, parce qu'il y a eu des oppositions, je dirais. Donc, c'est pas si... Enfin, il y a peut-être une évolution, et votre parole est intéressante dans le cadre d'une acceptation, même si vous avez un idéal, si j'ai bien compris, prôné, et puis vous tournez vers... Vous accueillez tout le monde, et vous le reprenez d'ailleurs dans votre livre, Jésus accueille tout le monde, donc vous accueillez tout le monde. Mais...
Alors, oui, ensuite, c'est le sens profond des positions de l'Église qui est intéressant, c'est que sur toutes ces questions, le sens profond de la position de l'Église, c'est de dire, attention, ce n'est pas nous qui faisons l'enfant. Et l'enfant est toujours un cadeau. Et l'enfant est toujours un don. Et l'enfant est toujours un don qu'on reçoit de façon totalement gratuite. Voilà. Alors, on est d'accord. Mais du coup, cette position prophétique de l'Église a été très fortement défendue pour, par peur aussi, qu'on fasse de l'enfant un objet ou quelque chose auquel on a droit. Voilà, le droit à l'enfant, par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à entendre, et cette gratuité nous semble offerte de manière unique par la nature déjà. Hein. On ne choisit pas l'enfant. On ne choisit pas d'avoir un enfant, et on le reçoit. Et l'attitude ensuite qu'on aura vis-à-vis de son propre enfant sera très différente si on l'a reçu comme une surprise, j'allais dire comme un cadeau, que si on l'a trop voulu, si on a trop mis la main dessus. Voyez, et mettre la main dessus, je vais jusqu'à la fécondation in vitro. Il y a quelque chose qui est du domaine un peu technique, une intervention trop technique ou scientifique sur la vie, effectivement, ça fait peur à l'Église, oui.
Mais je crois qu'elle a tort. Parce que oui, non, je crois qu'elle a tort, parce que si vous voulez, pas sur droit à l'enfant et pas sur enfant objet. Ça, je veux dire, on se rejoint tout à fait. Par contre, je dirais, le passage technique, c'est comme une opération chirurgicale. Là, c'est une opération biologique. Il n'est fait que pour s'insérer dans un désir qui est exprimé et dans une souffrance qui est vécue et qui est ressentie par les médecins et par les biologistes qui s'occupent de cela. Donc, je pense vraiment que tant qu'on est dans un cadre qui... Alors, on discutera tout à l'heure des lignes rouges, de l'éthique, et là où il faut pas aller, parce qu'il y en a des lignes rouges, mais je pense que lorsqu'on est en face d'un couple qui manifeste son désir d'enfant et qu'il n'a pas d'autre solution facile, en tous les cas,
que celle-là. Mais c'est vrai, il faut l'entendre, ce désir, il n'y a aucune difficulté. De fait, la ligne rouge, elle est de plus en plus éloignée, et au fur et à mesure qu'on cède sur quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose d'autre, là on y est sur on est quasiment sur la GPA, et donc, voilà, et je trouve que... il y a quelque chose qui est d'un enchaînement qui repousse toujours plus loin la ligne rouge et qui peut nous faire entrer dans quelque chose qui est en revanche
alors,
pour moi très condamnable.
Je partage hein, votre inquiétude sur l'absence de ligne rouge, celle qui se repousse jusqu'à l'infini. Ceci étant, je ne suis pas d'accord avec la notion de glissement inéluctable et que si on commence sur la ligne A, on arrive à Z automatiquement. Je pense que justement la conscience humaine est assez forte pour pouvoir poser ses limites. C'est pas simple. Il faut être vigilant et c'est un combat permanent. maintenant, mais je préférerais qu'on ait ce combat ensemble plutôt que des oppositions que j'ai pu vivre ici ou là. Et une des questions aussi qui est fondamentale, c'est la notion de l'embryon humain. Vous savez que il y a eu tout un tas de discussions. Moi-même, j'avais été invité au Vatican. Je le dis souvent parce que c'était un moment très fort de 3 jours de discussion avec celui avec le cardinal Ratzinger à l'époque. Et donc, il y avait, si vous voulez, un point fondamental qui était comment considérer quel statut de l'embryon humain. Oui. Alors là, c'est vous qui écrivez dans le livre. Hein, vous parlez de la vie humaine. Et le terme de vie humaine, bien sûr que l'embryon est une vie humaine. La question est de savoir, et c'est un long débat dans l'Église, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est un long débat entre l'animation immédiate et l'animation différée, entre saint Thomas d'Aquin du XIIIe siècle et d'autres qui considèrent que finalement l'être humain se constitue progressivement, même s'il a les prémices en lui dès le début. Donc cette question a été tranchée récemment plutôt vers l'animation immédiate et considérer que dès le début il faut le considérer comme et bien sûr nous sommes un peu plus nous qui voyons les choses se développer sous nos yeux maintenant avec les échographies et tout ça pour une notion plus progressive. Alors bien sûr c'est toujours de la vie humaine, mais est-ce qu'on peut parler de personne à tous les stades, à toutes les moments d'évolution?
C'est une question. Alors d'abord, dans votre question, c'est une question très débattue dans l'Église catholique. Moi, je trouve qu'elle n'est pas, en tout cas, assez dans la société, cette question du statut de l'embryon. C'est-à-dire qu'on a mis une croix sur cette réflexion du statut de l'embryon dans la société, avec des réflexions qui arrêtent immédiatement la réflexion. Et je trouve ça dommage parce que, en fait, c'est une réflexion philosophique profonde. Comme philosophe, je dirais que le problème entre la fusion des gamètes et la naissance, c'est qu'il n'y a aucun point de discontinuité. C'est-à-dire qu'à aucun moment on pourrait dire, tiens, il est en train de changer radicalement et fondamentalement. La question de l'animation de l'embryon, c'était de dire, à partir du moment où l'embryon ressemble, en gros, physiquement à une personne, alors il devient une personne. Mais on voit trop la personne du côté de son milieu.
Mais ça c'est l'Ancien Testament hein, qui dit que jusqu'à 40 jours, ce n'est que de l'eau, et à partir de 40 jours, il y a quelque chose.
Alors ensuite, Saint Thomas va un peu plus loin quand même. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est à partir du moment où ça ressemble à un bébé, en gros,
c'est la vision des yeux, ouais. Le microscope on voit d'autres.
Hein, voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun point de discontinuité, en fait. Et donc, dans certains pays, qu'on puisse pratiquer l'avortement à tant de mois, à d'autres à tant d'autres mois, en Angleterre jusqu'à la naissance, alors qu'un enfant peut naître prématurément, est-ce que... vous voyez, ça pose tellement de questions que je trouve ça dommage qu'on n'aborde pas le fond. Hein. Et le fond, c'est quand même de dire, effectivement, est-ce que c'est une personne ou pas. Et il faut que ce débat soit d'abord très calme, avec des philosophes, en réfléchissant profondément, hein, et sans que ça ait l'air de juger personne, parce que justement dès qu'on rentre dans ce débat, automatiquement on donne l'impression de juger, et il faut pas juger, parce que il y a des drames épouvantables et humainement des choses terribles qui sont derrière cela. Ensuite, je dirais qu'une femme qui appelle son bébé qui est dans son ventre, elle l'appelle mon bébé, mon petit. Donc ça serait aussi faux de croire que on arrivera à dire aux femmes que ce qu'elles ont dans le ventre n'est rien.
Non, mais personne ne dit ça. Par contre, ce qui a été dit, j'aimerais vous entendre là-dessus, ce qui a été dit dans la réflexion du Comité national d'éthique il y a maintenant 25 ans, où il y avait des représentants de toutes les courants de pensée, en particulier il y avait le père Verspirène, le père Dinéchin, tout ça qui ont été présents. Ils n'étaient pas d'accord.
Il
faut quand même le rappeler. Mais disons que voilà, on a défini à ce moment-là une personne potentielle ou une potentialité de personne. Il y avait d'ailleurs plusieurs points de vue. Et cette notion de potentialité de personne inclut le respect qu'il faut, je dirais, qui est intrinsèque, mais en même temps ne peut pas considérer que l'arrivée est égale au départ. Il y a quelque chose, une potentialité de personne. J'aimerais vous entendre aussi là-dessus.
Je dirais déjà, prenons en compte simplement cette différence philosophique. C'est-à-dire, oui, il y a une potentialité de personne, avec tout le respect qui est dû à cette potentialité de personne. Et je trouve que parfois la société a trop tendance à négliger cette dimension de potentialité de personne, ce rapport affectif de la mère à l'enfant, et justement ne veut pas réfléchir sur cette question. Et du coup, ça engendre des traumatismes chez les femmes. On peut pas dire. Moi, je trouve que c'est impossible de dire. dire qu'un avortement, ça doit se laisser oublier, non, ça doit s'accompagner profondément. Et je trouve que c'est pour ça que je parle de la détresse des personnes. Il y a une détresse qui est un peu occultée et que moi je rencontre régulièrement. Non, rien que cette potentialité de personne, au minimum, elle implique un regard qui est très intime et très fort de la femme sur son enfant.
Mais je suis tout à fait d'accord en tant que médecin que l'accompagnement dans ce genre de situation est capital et un temps aussi de réflexion et de décision.
Voilà.
Bien entendu, c'est là absolument. Mais déjà, c'est une prise en compte, en tous les cas, de ce qui existe, c'est-à-dire parfois d'une impossibilité à poursuivre. Et en plus, j'étais, moi, sur la nécessité, à un moment donné, peut-être de développer certaines recherches sur un stade embryonnaire qui n'avait pas de projet parental. Parce que le vrai problème, c'est que quand même, on est en face d'un homme et d'une femme qui s'expriment. Mais s'ils s'expriment qu'ils n'ont pas de projet parental, que faire? On ne peut pas.
Voilà. Ensuite, je trouve que l'intention de la loi, l'intention de la loi avec Simone Veil,
c'est vraiment dégradé. Là.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est c'est effectivement. Si, d'abord, s'il y avait que des cas où il y a une grave impossibilité de naissance. Effectivement, il faudrait y réfléchir, mais là, on est sur des raisons qui sont parfois individualistes aussi.
Oui, mais on est sur une situation d'impossibilité où on peut tester cette impossibilité en tous les cas pour qu'elle soit sans regret ultérieurement, mais on est sur une impossibilité sans qu'il y ait d'anomalie, sans qu'il y ait de problème médical, d'assumer la suite du développement de l'embryon et de la maternité. C'est ça qui, au point de ce que nous avions vécu, c'est-à-dire au point de procéder à des actes dangereux pour sa propre personne, bien
ouais,
sûr,
ça, c'est sûr
et
c'est,
qu'il
c'est,
fallait, c'est, qu'il fallait éviter. Je retiens, en tous les cas, d'abord, l'ouverture des questions, encore une fois, je le répète dans ce livre, « Aime ce que tu veux, fais-le », qui est une citation que vous avez reprise de
Saint-Augustin.
De Saint-Augustin, ouais, mais ouais. Qui continue, hein. Il ne s'arrête pas là, parce que là, c'est attractif. On se dit, oui, oh là là, on va tout faire, on peut tout faire.
On ne peut vouloir que le bien de l'autre, en fait.
Voilà, c'est un peu, déjà, on le dirige. Hein. C'est pas aussi libertin que ça le laisserait croire sur votre livre. Oui, je voulais juste, pour terminer, peut-être vous signaler que nous avions fait à l'hôpital, et nous faisons encore de temps en temps des consultations d'éthique. Parce que j'ai découvert que les gens avaient des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, et ils avaient parfois des crises éthiques, à savoir comment répondre à telle ou telle question, surtout sur les thèmes de la reproduction. Et que nous avions travaillé main dans la main avec les différents représentants des grandes religions, qui étaient souvent là où ça butait. Hein, c'était d'être en accord avec ses propres croyances, et des fois il y avait des propositions qui posaient en tous les cas des questions. Et que je trouve que prendre ce biais, c'est-à-dire enfin cette voie de questionnement pour toutes les questions que nous avons brossées un peu rapidement parce que le temps presse, est sans doute absolument nécessaire de continuer le dialogue et d'écouter l'autre.
C'est très important, dès qu'il s'agit de l'humain, il faut pas conclure par dès qu'il s'agit de l'humain, il faut rentrer dans une réflexion. L'humain est trop précieux, la personne humaine est trop précieuse pour qu'on puisse donner des réponses trop rapides. Voilà, et c'est effectivement une belle réflexion éthique, c'est quelque chose d'important.
Monseigneur Gubillard, vous avez des amis dans l'église?
Non, en fait. Mais comme partout, hein, vous savez, nous sommes tous des pêcheurs.
Non, je veux dire par là que vous
même
êtes,
moi,
vous
même
êtes
moi,
un peu
il m'arrive
en
d'avoir...
position, on vous écoute avec intérêt, mais on se dit, tiens, ça doit faire bouger les lignes.
Peut-être.
Souhaitons-le.
Oui.
Vous êtes sur France Culture, nous étions en compagnie de Monseigneur Gobillard, auteur avec Thérèse Argaud de « Aime ce que tu veux, fais-le ». C'est une émission en partenariat avec le Quotidien du Médecin dans notre grande rétrospective sexualité et spiritualité. Et bien sûr, ceci n'aurait pas été possible sans la participation de Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Manuel Couturier, Denis Journeau, Nino Lima.